Santiago Roussignol, L'homme au chien, nouvelle. L'homme au chien était boiteux, mi-bossu, presque aveugle, maladif, toutes conditions pour être pauvre. Dans le monde, il n'avait pas plus que ce vêtement qui le couvrait. Une coiffe velue d'un poil dont on ne pouvait savoir à quelle bête il avait appartenu, un complet de saison, le même pour toute l'année, un sarrau qui lui servait de garde-manger pour la nourriture, son seul capital, le linge qui avait dû être blanc, des aiguilles et du fil avec quoi il raccommodait des bouts de chiffon, quelques ustensiles et outils de travail. À ses jambes, il portait des caleçons, aux pieds, de vieilles espadrilles. Sa demeure était où la nuit le surprenait, sa table où il trouvait à manger, sa ville celle où il séjournait. Sa patrie d'élection, elle se trouvait toujours plus loin. Ses parents demeuraient au ciel, et comme suprême refuge, il avait, pour le présent, l'hôpital, pour demain l'asile, pour plus tard la fosse commune. Toutefois, s'il n'avait ni santé, ni gîte, ni argent, ni même l'espoir de tout cela, il possédait deux qualités et un certain entêtement. Ses qualités étaient la patience et une dignité de pauvre, plus difficile à maintenir que la dignité du riche. Quoi qu'il l'aurait pu, il n'avait jamais demandé l'aumône. Avec pareil entêtement, avec sa patience, il aurait dû devenir quelqu'un. Mais par faute de moyens, par faute d'esprit pratique, à défaut d'élèves et d'écoles normales où il aurait normalisé sa vie, se ratait de l'enseignement qui eût été un martyr de plus dans la civilisation espagnole, s'était fait maître de chien. Le premier disciple qu'il posséda fut un chien habile à la nage. C'était un chien d'eau, mais qui paraissait plutôt couleur de vin. Le jour où il le trouva, ce chien était si sale, il avait le poil si mal taillé, si négligé, qu'on pouvait dire que, si par origine il était un chien d'eau, cependant, il n'avait point touché l'eau depuis plusieurs mois. Le maître l'appela, et ce chien, remuant la queue, flairant le sarrau, bien qu'il fût vide, entra en pourparlers avec lui. Il y eut entente, et le dressage commença. En premier lieu, il lui lessiva la tête, lui passa un gros coup de peigne, lui tailla les poils du cou en tête de lion, avec des moustaches et une touffe à chaque patte. Puis il lui enseigna les bonnes manières, ne manger que par faim, ne pas fréquenter certains chiens, ne pas se distraire avec des amis, ne pas s'arrêter au coin où se trouvent des annonces prohibitives. Une fois dressé, son maître lui apprit encore à s'asseoir. Puis il le fit mettre debout sur deux jambes, de façon qu'il puisse bouger ses autres pattes, remuer la queue, retourner la tête et faire tout ce qu'on lui commandait, sauf partir si ce n'était l'heure du déjeuner, l'heure de manger à peine le quart de ce qu'il convoitait. Il lui apprit de plus, quand il sut s'asseoir, à marcher droit sur ses deux pattes, sans l'aider de la main, sans appui et sans qu'il soit accompagné, seul et à son compte. Ses grades acquis, on lui acheta un costume que son maître lui tailla proprement, mais qui bientôt fut quelque chose de sale. Par-dessus en lustrine avec dentelle aux quatre pattes et un trou pour passer la queue. Pantalons avec élastique, comme en portent les enfants de la campagne. Gilet décolleté par devant, casquette avec visière, ruche, plume et tout ce que possèdent les coiffes de chiens, et aussi ce qu'elle ne possède pas. Enfin, quand la bête fut dressée, quand elle fut un chien instruit, lorsqu'elle ne demanda plus avec hâte son dîner, qu'elle sut sauter et danser, alors elle passa au rang de bête savante. Le chien d'eau amena un jour quelque ami. C'était un chien de garenne, gai, étourdi. Il avait un museau comme quelque entonnoir, des côtes magnifiques dans sa grande maigreur, il avait aussi faim que lui et pas plus à manger. Comme il était plus long de pattes et comme le corps ne lui pesait pas, il fut désigné pour sauter les cerceaux. Saute quand même. As-tu quelque chagrin? Saute. Saute dans la peine ou dans la joie, car de l'autre côté du cerceau, il y a au moins l'espoir de manger quelques bouchées. Et ce chien devait s'alimenter pour maintenir sa maigreur. Avec ce personnel à point, il ne manquait plus qu'un chien clown pour compléter la troupe. Le maître trouva cet aimable chien comme on trouve pareille bête, triste, allongée au soleil sous les arcades d'une place. C'était un chien comme il y en avait peu. Il ne ressemblait à personne, mais plutôt il paraissait un chien vagabond. Il était blanc, d'un blanc poussiéreux, petit, cagneux, avec des yeux humides. Il avait une tache au nez, deux tares, comme deux meurtrissures aux paupières, un morceau de queue. Il avait encore un petit air d'importance et quelque tristesse dans le regard qui allait fort bien pour faire rire. Aussi, quand son dresseur le vit si calme, si pacifique, si désabusé de la vie, si ridicule, et ramenant si vite la queue en réponse à ce qu'on lui disait, le maître l'appela tout de suite, lui expliqua de quoi il s'agissait, lui donna le sobriquet de Colombe, le joignit à son école et lui enseigna des facéties. La facétie consistait à porter perruque, à travailler en feignant la nonchalance. Le chien de garenne sautait-il au cerceau? Lui devait marcher dessous avec des clins d'œil à ceux qui regardaient. Le chien d'eau marchait-il droit? Colombe devait marcher en travers et rire du museau. Qu'un des deux dansa, lui se cachait dans une sorte de cabas et ne bougeait plus, même à l'appel de debout, entêté à ne point travailler. Que celui-ci fasse le bon vivant, lui faisait le mort, allongé par terre, tel un défunt, mais bougeant les oreilles pour montrer aux paysans qu'il savait les imiter. Ensuite, il tendait le plateau pour la quête. Donnait un merci pour quelques sous, offrait la pâte pour plusieurs, et se serait donné tout entier pour un douro, s'il y avait eu des douros où il passait. Ce qui paraissait si difficile, si compliqué à apprendre, et qu'il l'eût été réellement pour beaucoup de spectateurs dans ce monde, à cette bête parut une chose très simple, si simple même, que son maître ne dépensa point pour la lui enseigner plus du quart de sa science. Car Colombe était si attentif, si studieux, il écoutait si bien que quand il prenait le son avec ses deux amis qui le regardaient, ceux-ci s'extasiaient d'avoir un compagnon aussi savant et approuvé de museau. Dès que le maître lui signifiait de se lever, il sautait dans le panier. Quand il lui ordonnait de mourir, il entrait bientôt en agonie. Et quand son maître lui faisait exécuter quelque grâce, tous trois étaient sur le point de rire, car rien qu'avec le regard, Colombe les amusait. Cette bête cagneuse était devenue la perle de leur maison, l'avenir de la troupe, celle qui promettait la meilleure carrière. Avec un tel savoir-faire, ne pouvait-elle pas se présenter devant n'importe quel public? Et, comme notre bon dresseur avait son personnel au complet, il mit une paire de neuves espadrilles, réunit ses trois disciples, leur donna une soupe à l'ail, et ils s'en allèrent au long des routes pour gagner le pain quotidien. Par la route, tout leur souriait. Le maître marchait en boitant, et les gosses paraissaient partir en vacances ou jouir de leur jeudi. Qu'importait la poussière? Le chien d'eau continuait à ne pas être nettoyé. Il ressemblait plutôt à un chien de poussière, tant il se roulait, tant il courait, sautait, poudrant ses poils comme un chien de style Louis XIV. Rencontrait-on quelques tas de gravier, le chien chasseur les sautait tous, abusant de ses aptitudes, n'ayant garde à ses jambes, comme les ténors ne marchant de pas leur voix. Passés quelques rémouleurs, les chiens aboyaient après lui par habitude. Passés quelque autre chien, même peu savant, il le saluait, le flairait, lui disait quelques mots de courtoisie à l'oreille, et s'il ne voyait personne en route, les deux chiens taquinaient Colombe, lequel, puisqu'il faisait les facéties, marchait toujours triste derrière son maître. Ou encore, ils donnaient une répétition sous quelque bocage et s'habillaient de tous leurs atours pour entrer dans un village. Ils arrivèrent ainsi sur une place et firent cercle. Maintenant, au travail. Le chien d'eau commença. Danse avec par-dessus, gilet et toque à grandes plumes qui lui tombaient sur les yeux, ce qui le gênait beaucoup. Après vinrent les sauts du garenne, puis les facéties du clown. Danser sur les deux jambes, beaucoup de paysans trouvaient cette chose naturelle. Ce n'était pas tellement fort et pouvait s'exécuter. Pour les sauts du chien de garenne, ils s'en étonnaient moins encore. Car s'ils n'avaient pas vu des chiens sautant les cerceaux, ils en avaient vu qui sautaient des torrents pour attraper un os. Ils restaient étonnés cependant qu'une bête jouât la comédie quand ils ne savaient même pas, eux, jouer le drame. Les rustres riaient, se tapaient entre eux, et ils essayaient de distraire Colombe en lui pinçant la queue. Mais Colombe n'était pas chien à se laisser distraire par des passements ou des bêtises. Colombe se sentait supérieur à l'assistance qui le regardait. Il avait la vanité du bohème, et qu'il fît le mort ou l'intrépide, jamais il ne perdait patience quand un chien ignorant s'approchait pour lui tenir quelque banal propos. Il lui adressait un tel coup de museau que l'intrus se faufilait entre les paysans qui riaient des bouffonneries, celle du panier, celle de rester mort quand il lui était dit de se lever, celle du cerceau ou celle de la nonchalance paresseuse, tout son répertoire enfin, sauf celle du plateau, car les spectateurs ne trouvaient pas bon qu'un chien bien élevé comme lui se présentât en sautant pour demander l'aumône. Aussi, quand apparaissait le plateau, les paysans s'écartaient, et l'homme au chien changeait d'humeur, et la troupe s'en allait vers un autre village. D'un lieu à l'autre, de cet autre à un plus loin, du bleu de là-bas à l'horizon brumeux, on aurait pu suivre chemin plus long que celui de pareils artistes et de leurs maîtres, dont la jambe valide portait l'autre. Ils avaient essayé toutes les étapes. Ils avaient passé devant toutes les auberges. Ils connaissaient toutes les places de village, tous leurs platanes, leurs bancs et cette monotonie qui leur est particulière. Ce fut pour le maître et ses disciples, qui s'entendaient bien, des temps heureux, tant de liberté, tant de gloire, de poussières blanches et de jours roses, de courses au grand air, qui leur donnaient l'espoir de trouver au loin ce qu'ils ne rencontraient pas tout près. Ce fut un temps qui, pareil à la jeunesse, au bonheur, à la joie, ne dure que quelques couchers de soleil, l'instant de gravir une montagne pour la descendre de l'autre côté. quelques pauvres printemps avec des perspectives d'automne. La bonne entente et l'harmonie ne durent guère en ce bas monde. Les petits chiens eux-mêmes, quoique n'étant point des personnes, ont également de l'ingratitude et oublient leur maître. L'union des familles s'évanouit quand y entre la misère. Cette famille ambulante devait tourner comme les autres, se disperser et rouler, semblable aux feuilles des chemins suivis. Le premier malheur vint du chien de Garenne trop volage. Pour des amours partagées, un matin de printemps, sans même quitter son costume, sans dire adieu à ses compagnons, et sans prendre congé du maître, il s'enfuit avec une chienne de même race, afin de former ménage à leur compte. Le cher maître se servit bien de sa jambe valide pour rattraper les fugitifs. Il appela dans tous les villages, mais à quoi bon crier après des chiens en fuite? Tout seul, le chien sautait comme un garenne. Comment devait-il sauter avec son ami? À l'étranger, sans doute, le couple devait courir. Une lune de miel vagabonde, un amour aventureux, des jours de bohème, à travers les plaines du monde. Ce premier malheur en appelait un autre. Le chien d'eau, un jour, se fit empoigner dans quelque ville, du lacet à la voiture, puis au dépôt, et comme il n'avait pas de collier, pas de costume, qu'il ne put expliquer qu'il était un chien savant, il fut oxy avec beaucoup d'autres, comme un chien sans mérite. La science étouffa l'art, comme il arrive souvent. Le maître, après cela, trouva bien d'autres disciples. De nouveau, il dépensa toute la patience qu'il avait pour les éduquer, mais ils montrèrent plus de mauvaise volonté que les premiers. L'homme au chien se voyait vieillir, il fut plus boiteux, plus triste, plus amer, puis, sans leçons à donner, ne trouvant plus de disciples, lui et son fidèle Colombe, ils restèrent tous deux seuls au milieu du chemin. La tristesse que ressentit le bonhomme quand il se vit sans sa famille, à marcher toujours avec son unique compagnon, ne peut être soupçonné que par celui qui connaît la nostalgie d'une plaine sans arbres et sans nuages. Les villages lui parurent plus lointains, la terre fut plus âpre et les hommes se montrèrent plus hostiles. Le soleil, en fin de compte, parut s'éteindre au bout des chemins. Il se sentit glacé du froid de la solitude. Cette marche sans espoir lui brisait les genoux, et souvent il s'asseyait sans souci d'aller plus loin, caressant son chien qui se couchait à ses pieds, comme il se serait couché sur la tombe d'un pauvre. Colombe, le pauvre Colombe, aurait bien voulu le consoler, mais il ne savait que faire des facéties. Il aurait bien voulu gagner leur vie. Mais ils ne pouvaient la gagner sans faire de bouffonnerie, et, tout de même, puisqu'il aimait son maître, il ne l'aimait pas pour rire. Quand il le voyait soupirer, il se cachait sous le panier, et de là le regardait avec des yeux humides, et, ne sachant comment le distraire, il venait lui lécher les mains. S'il le voyait triste, il faisait le boiteux. S'il pleurait, il faisait le mort, et, faisant le mort, remuait la queue comme pour dire « Je ne t'abandonnerai jamais, sache-le ». Il ne pouvait vivre de pareilles plaisanteries. Aussi ces dernières ne servirent aux pauvres colombes qu'à une chose, gagner leur pain en le quêtant de porte en porte, avec une sébile à la gueule. Il revenait parfois avec un compagnon et semblait dire « Celui-ci te servira peut-être, essaie, qui sait ?» Son maître l'approuvait sans foi, sans goût d'enseigner, et le disciple n'en montrait guère pour apprendre. Parfois, s'il ne recevait pas de pain, il faisait ce qu'il n'avait point fait, aboyer contre ceux qui ne lui en donnaient pas. Et puis, lorsqu'il voyait son maître qui ne pouvait plus guère marcher, qui était si las, qui devenait de plus en plus aveugle, il se couchait à ses pieds et pleurait, le pauvre colombe, sans jappement, comme font les chiens, mais avec des larmes plus sincères, plus vraies que beaucoup de celles versées par les hommes. Un soir ou un matin, pour lui, ce devenait pareil, l'homme au chien fut complètement aveugle. Un crépuscule tomba sur sa vie avec toutes espérances de revoir la lumière. Les fenêtres du paysage, de la lumière et celles de l'harmonie se fermèrent pour toujours. Faible, désemparé, ne voyant plus devant lui aucun chemin et ne sachant où aller, il se fit conduire à l'asile. Il se fit conduire à l'asile, mais il n'avait pas pensé que pour les chiens l'asile était fermé et qu'il devait se séparer de Colombe. Lorsqu'il fut au pied de la porte, ayant embrassé son chien et des larmes dans ses yeux aveugles, il se ressaisit et dit « Non, je ne t'abandonnerai pas. Partons tous deux. Conduis-moi où tu voudras, Colombe. » Et Colombe, comme s'il avait compris, aboya devant lui sur la route. Il semblait répondre « Attache-moi à une corde. Bien que je sois un chien bouffon, je connais toutes les routes pour les avoir suivies longtemps, et je te guiderai de village en village. » L'homme et le chien suivirent ensemble ces chemins lumineux qui étaient devenus sombres. Ils les suivirent à tâtons. Ils les trouvèrent beaucoup plus longs, déserts, obscurs, comme des routes de ténèbres. De nouveau, ils entendirent le bruit des enclumes, la plainte des cloches. Lui ne voyait plus ni un rayon de soleil, ni un reflet doré sur les vignes, ni le balancement des épis, ni la douceur des plaines. Cette corde, qui guidait le maître et qui le reliait à son compagnon, était l'unique nerf sensible par lequel il communiquait à la terre. Un jour, la corde s'arrêta net, et l'homme eut un sursaut. « Qu'as-tu, Colombe? Pourquoi t'arrêtes-tu ? » Colombe aboya légèrement, comme s'il voulait dire « N'aie pas peur !» Et il continua de marcher. « Tu deviens vieux, Colombe !» répliqua son maître, et le chien de lui lécher la main. « Reposons-nous, si tu veux. Qu'importe si nous arrivons tard ? Tu sais bien que pour moi, c'est toujours la nuit. » Colombe ne répondit pas, mais se mit à marcher plus vite pour chasser tout soupçon. Soudain, il s'arrêta de nouveau. « Colombe ! » cria l'aveugle. « Marche, Colombe !» Et Colombe ne répondait pas. « Viens ici ! Ne te cache pas sous le panier !» Il ne bougea pas. « Lève-toi ! » Il ne se leva plus. Une sueur d'agonie empoignait le pauvre homme. Il allongeait la main autour de lui, et malgré que cette main fût gelée, elle touchait quelque chose de plus froid encore. Colombe était mort sans rien dire, en silence, sans avertir son maître. Et le maître, près de son ami mort, seul, tout seul au milieu du chemin, sut alors qu'il était aveugle.